Présentation de la correspondance entre Dietrich Mannke et Oscar Becker, qui sont deux élèves de Husserl, philosophe des mathématiques. Dans sa présentation de cette correspondance, Paolo Mancozu, dans un article intitulé « Das Abenteuer der Vernunft, Oscar Becker and Dietrich Mannke on the Phenomenological Foundations of the Exact Sciences », donc, dans cet article, Paolo Mancozu regrette que the relationship between phenomenology and the exact sciences in the 20s is still an unexplored era. Et donc, ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est proposer un aperçu des réflexions phénoménologiques sur les fondements des mathématiques dans les années 20 et des discussions que ces réflexions ont suscité, en particulier discussions entre phénoménologie et le cercle de Vienne. Parmi les principaux protagonistes de ces débats, les uns étaient des mathématiciens qui se sont intéressés à la phénoménologie, comme par exemple Hermann Weyl. D'autres étaient des philosophes qui se sont intéressés, c'était des philosophes qui ont été les élèves de Husserl, soit à Göttingen, lorsque Husserl a enseigné à Göttingen, c'est le cas de Dietrich Mannke, soit qui ont été ses élèves après dans les années 20 à Fribourg, lorsque Husserl est parti enseigner à Fribourg, et c'était le cas de Oscar Becker. Et enfin, dans cette constellation d'auteurs qui faisait l'approche phénoménologique des mathématiques, dans cette constellation d'auteurs, il y avait enfin des auteurs qui n'étaient pas à proprement parler des élèves de Husserl au sens académique du terme, mais qui ont été marqués par Husserl, et qui ont joué le rôle de médiateur entre le mouvement phénoménologique et d'autres écoles, et en particulier entre le mouvement phénoménologique et le cercle de Vienne, et c'est le cas de Felix Kaufmann au début des années 30. Felix Kaufmann, c'est vraiment le personnage clé dans les relations dans les années 20, pour les relations dans les années 20, entre ce qu'on appelle le mouvement phénoménologique et le cercle de Vienne. Puisque Felix Kaufmann fréquentait à la fois de manière assidue le cercle de Vienne, et c'était quelqu'un qui était très proche de Husserl, qui est personnellement très proche et scientifiquement très proche. Sur les relations personnelles, il y a par exemple une correspondance qui existe entre Kaufmann et Husserl, et on sait par exemple que dans les années 30, Husserl était très très isolé, il n'avait plus le droit de parler publiquement, et il comptait en fait dans la correspondance, on voit comment il comptait sur Felix Kaufmann, il avait le projet de quitter l'Allemagne. Felix Kaufmann va émigrer aux États-Unis, il va enseigner à New York, et Husserl avait le projet de quitter l'Allemagne en comptant sur l'aide de Felix Kaufmann. Donc ce sont un peu de ces auteurs dont je voudrais parler aujourd'hui et de ce que Husserl, dans les années 20, ce que Husserl appelle encore dans les années 20 leur Sum Philosophein, avant qu'arrive le temps des désillusions et de ce que Husserl appellera l'immense déception. Alors premier point, ce que je voudrais commencer par faire situer, expliquer un peu ce que Husserl entend par mathématiques, et notamment la distinction qui est cruciale pour Husserl entre mathématiques formelles et mathématiques matérielles. Et pour exposer cette distinction, expliquer ce que Husserl entend exactement par mathématiques, je vais m'appuyer sur un cours qui s'appelle Natur und Geist, donc c'est les Vorlesungen, les leçons du semestre d'été 1927, qui donc date des années 20. Alors, dans ce cours, ce qui est intéressant, c'est que Husserl, en fait, dans ce cours Natur und Geist, propose une classification des sciences, une classification générale des sciences. Et dans cette classification des sciences, eh bien, il essaie d'intégrer les mathématiques, et ça permet d'avoir une vision très générale de la manière dont Husserl envisageait dans les années 20 la situation des mathématiques au sein des différentes sciences. Puisque pour Husserl, la mathématique est une science au sens prégnant, Wissenschaft im prägnanten Sinne, qui se compose elle-même d'un certain nombre de disciplines mathématiques, entre lesquelles il existe une parenté plus ou moins grande. Et donc c'est ce point que je voudrais essayer d'expliquer. Pour proposer cette classification, ce qui est important de savoir, c'est que Husserl s'appuie sur l'idée de ce qui appartient à la science en général. Donc il ne s'agit pas du tout pour Husserl de classer les sciences telles qu'elles existent à son époque, proposer une sorte de synthèse dans les années 20, mais il se laisse guider dans sa classification. C'est une classification purement a priori et rationnelle qui se laisse guider par l'idée de ce qui appartient à l'essence d'une science en général. Donc, c'est ce que Husserl appelle une approche eidétique. Et de ce point de vue, la démarche de Husserl, qui est donc eidétique, est très très différente de celle de son élève Oscar Becker, qui lui va être très marqué dans les années 20 par l'enseignement de Heidegger, par les cours de Heidegger. Et les perspectives vont être très différentes. Et sur ce premier point, par exemple, la différence entre les deux approches est très très nette, puisque Oscar Becker, je vais venir à la citation dans un instant de Becker, mais pour Husserl, il n'y a aucun intérêt philosophique à réfléchir sur les sciences en tant que tradition historique. Il n'y a aucun intérêt pour Husserl à rester rivé à ce qu'il appelle la factualité en se contentant de regrouper ce qui est. Donc c'est la deuxième citation que je propose, qui est tirée du cours Natur und Geist de 1927. A philosophical classification should be a classification of actual and conceivable sciences in general, which implies that it has to follow the pure idea of science and to overlook its facticity. Or, in other words, to follow the pure and unconditionally universal sense of a science as such in general, and it must be characterized by an apodictic necessity based on the latter. Donc, il faut se laisser guider par l'idée de ce qui appartient à une science en général. Tout autre est la démarche de Becker, puisque dans le texte qui me servira ici de référence, Husserl, je parlerai uniquement de Natur und Geist, et Becker, je parlerai uniquement d'un texte qui s'appelle Mathematische Existenz et qui est paru en 1927. Donc, à peu près au même moment où Husserl tient son cours Natur und Geist, 1927. Et en 1927, Becker écrit ceci dans le Mathematische Existenz. il dit qu'il va essayer d'élucider, for we will try to elucidate, while also interpreting it, the meaning of some mathematical phenomena that have happened in the history of mathematics. However, we will not ask ourselves if, in addition to of the factual development, neben dem faktischen Verlauf of the history of ideas, other pure possibilities, other reine Möglichkeiten, c'est comme ça que le terme qu'a utilisé Becker, might have happened otherwise. Donc il ne s'agit pas pour Becker, dans son approche historique des mathématiques, se fonde sur ce qui s'est réellement passé et pas sur de pures possibilités, pas sur ce qui aurait pu se passer en marge du cours factuel des mathématiques. La mathématique telle que la conçoit Husserl, donc, premier trait, c'est une science a priori, ça n'est pas une science empirique. Donc, c'est ce que Husserl appelle une science d'essence, une science eidétique, et ça n'est pas une science de fait. Les propositions mathématiques ne portent pas sur des faits, et non seulement elles ne portent pas sur des faits, mais elles ne concernent même pas de loin des factualités. Elles ne parlent pas de choses qui auraient une existence temporelle. Les propositions mathématiques portent sur des pures possibilités, sur des reine Möglichkeiten, ou bien sur des objets idéaux autour desquels s'organisent de pures possibilités. Les mathématiques sont donc une science a priori, et les propositions, les vérités qu'elles énoncent sont des vérités a priori. Mais, deuxième point, dans les sciences a priori, et donc qui énoncent des vérités a priori, il y a deux a priori pour Husserl, un a priori matériel et un a priori formel. Les mathématiques ne sont pas seulement une science a priori, c'est aussi, elles se séparent ici en deux, selon cette distinction des deux a priori, en un a priori matériel et un a priori formel. Les sciences a priori peuvent être formelles ou analytiques, d'une part, ou bien matérielles, c'est-à-dire synthétiques. Cette distinction, il reprend ici la terminologie kantienne entre les jugements analytiques et jugements synthétiques, mais en lui donnant un sens un peu différent. Ici, les sciences se répartissent en formelles ou matérielles selon que les jugements et les concepts qu'elles renferment laisse dans une complète indétermination la spécificité concrète des objets ou selon qu'ils l'admettent dans leur teneur conceptuelle. Donc, dans les concepts qui sont matériels, Husserl donne par exemple cette liste de concepts matériels, le concept d'homme, le concept de pierre, le concept d'image. Ce sont des concepts qui ont une teneur matérielle et qui renvoient à un monde factuel. Mais si nous parlons d'objets, de propriétés, d'états de choses, de relations, de tout, d'identité, de différence, alors ce ne sont pas des concepts matériels, ce sont des concepts formels et vides. Et des jugements qui ne renferment que des concepts du type « un tout est composé de parties, il a des propriétés, ça réfère à des états de choses », eh bien, tout cela... Ce sont des énoncés qui sont purement formels. Et ces énoncés, ces jugements, forment, pour Husserl, une science universelle a priori qui se rapporte à la région de l'objectivité en général et de ses formes dérivées. D'où la séparation des sciences a priori, dont Husserl considère qu'elle est de la plus grande importance, entre les disciplines mathématiques purement logiques, qui s'unissent en une mathesis universalis, et les sciences a priori qui ont une teneur matérielle, comme la géométrie, la théorie pure du temps, la mécanique a priori, etc. Les sciences se divisent en outre en abstraites et concrètes. La question se pose de savoir si les mathématiques sont abstraites ou concrètes. le fait qu'elle soit a priori, le fait qu'elle soit a priori et formelle, n'impliquant pas du tout pour Husserl, par exemple, qu'elles doivent être abstraites. Les sciences se divisent en sciences abstraites et sciences concrètes, selon que leur intérêt est orienté vers un ensemble d'individus concrets, ou même vers un individu déterminé pris dans toute sa concrétion. Dans ce cas, si on a affaire à un individu ou à un ensemble d'individus, elles sont concrètes, et si elles ont affaire à certains moments non autonomes des objets entiers, alors elles sont abstraites. La zoologie et la botanique sont des sciences concrètes, tout comme la science de la nature est une science concrète, si elle porte sur la nature concrète tout entière. La mécanique rationnelle est une science abstraite, qui est relativement autonome au sein des sciences de nature, car elle ne considère les corps que comme simples substrats de mouvement et de force motrice. Mais la physique universelle pourrait elle-même être considérée comme abstraite, s'il s'avérait que la nature matérielle n'est rien d'autre qu'une structure non autonome d'un monde pleinement concret en général, un monde dont la nature ne serait qu'une région. L'autre région étant par exemple l'esprit. Donc le contraste de l'abstrait et du concret se relativise. Une science peut être abstraite ou concrète selon le niveau de généralité auquel on se place, sans qu'il y ait aucune ambiguïté quant au sens des concepts. Les concepts, la distinction se relativise, mais les concepts ne sont pas ni équivoques ni ambigus. Prise à un certain niveau de généralité, la géométrie comme science de l'espace est abstraite par rapport au champ concret des objets dont ces concepts ont été abstraits, mais la géométrie est concrète, la géométrie dans l'espace est concrète par rapport à la théorie des sections coniques. Mais, donc, science a priori et empirique, science formelle et matérielle, abstraite et concrète, et cette dernière distinction pose un problème, puisque la distinction de l'abstrait et du concret, et l'usage qu'on en fait, pose un problème pour les mathématiques, selon Husserl, car les concepts de l'abstrait et du concret ne sont pas univoques au regard des sciences a priori matérielles et des sciences a priori formelles. Cette distinction du concret et de l'abstrait ne s'entend pas au même sens, l'abstrait et le concret ne s'entendent pas au même sens, selon qu'on les applique aux sciences a priori matérielles et aux sciences a priori formelles. Les unes et les autres peuvent être dites abstraites ou concrètes, mais lorsqu'on dit des unes qu'elles sont abstraites, ça n'est pas au même sens où on dit des autres qu'elles sont abstraites. Et ici, ce n'est pas une relativisation de la distinction, c'est une équivocité dans l'usage du concept. La précision terminologique qui est introduite par Husserl, tout objet concret possède en effet son essence complète et à titre de composante ses parties et ses moments. Tout objet a une durée, il a une extension, il a une forme, des qualités sensibles, des propriétés physiques, et avec leurs différents niveaux de généralité. Mais avec cette distinction, on demeure dans la sphère de la teneur matérielle avec laquelle s'accorde la distinction de l'abstrait et du concret. Mais si on regarde les choses du point de vue formel, si on dit de tout objet qu'il possède en général, qu'il est un quelque chose en général, qu'il est le tout de ses parties, eh bien ici, la forme vide du tout avec toutes les formes de relations qui en relèvent, elle est obtenue par une abstraction un peu particulière que Husserl appelle la formalisation. Ce n'est donc qu'improprement qu'on peut dire des disciplines de la mathésis universalis, donc qui relèvent de la mathématique a priori formelle, ce n'est que improprement qu'on peut dire d'elles qu'elles sont abstraites. Je cite Husserl. L'analytique universelle, la mathésis universalis, se trouve également mise au compte des sciences abstraites, tandis qu'à strictement parler, en tant que science de ce qu'il y a de formel dans toute objectivité, Elle surplombe toutes les sciences et ne saurait, au juste, à juste titre, être enserrée dans l'opposition de l'abstrait et du concret. Donc, de ce point de vue, la mathématique a priori formelle, on ne peut pas dire d'elle, à proprement parler, qu'elle est abstraite, ni même qu'elle est concrète. Elle n'est ni abstraite ni concrète, elle est formelle. Or, la phénoménologie est, comme discipline philosophique, dans sa méthode, plus proche de la démarche intuitive des géomètres qui opèrent avec des figures idéales que des déductions formelles des mathématiciens qui procèdent de manière axiomatique. Car la phénoménologie, pour Husserl, appartient à la famille des sciences eidétiques matérielles. Elle n'est pas une science empirique, pour Husserl, la phénoménologie est une science eidétique, mais elle est une science eidétique qui doit dégager l'a priori de la région conscience et ceci fait qu'elle a affaire à une région matérielle, la région conscience. D'où l'intérêt particulier du travail de Baker pour contribuer à la fondation phénoménologique de la géométrie et de ses applications à la physique. Ce qui me conduit au deuxième moment de cet exposé. Une fois posées les grandes distinctions tirées, empruntées à Husserl, telles qu'elles sont posées dans ce cours de 1927, je voudrais voir maintenant la manière dont Baker, qui comme Husserl a commencé par des mathématiques dans sa formation, et qui est mathématicien, qui a soutenu sa thèse en mathématiques avant de venir à la philosophie, comment Baker s'installe dans ces distinctions husserliennes pour penser l'opposition dans les années 20, puisque cette opposition est structurante dans les années 20, entre l'intuitionnisme, d'une part, l'intuitionnisme de Brouwer et Weil, d'une part, et, d'autre part, le formalisme de Hilbert. Le formalisme axiomatique de Hilbert, tel qu'il s'est développé une première fois en 1904, au congrès de Heidelberg, tel qu'il a été présenté 1904, et puis tel qu'il est représenté par Hilbert en 1922 dans le texte Neue Begründung der Mathematik, Nouvelle Fondation des Mathématiques, où Hilbert développe sa théorie de la démonstration. Il donne sa démonstration de consistance, pense être sa démonstration de consistance d'abord de l'arithmétique élémentaire, puis de l'analyse. Donc, dans ce texte de Baker, Mathematische Existenz, Baker se propose, après les discussions auxquelles on a assisté tout à l'heure, ça pourra paraître très très étonnant comme problème, peut-être même suspect, ce sera à vous d'en décider, mais... Toujours est-il que la question que se pose Baker, c'est d'élucider de manière philosophique donc, les fondements de la distinction entre l'intuitionnisme et le formalisme. Et il propose donc ce qu'il appelle une analyse herméneutique de la mathématique démonstrative et de la mathématique déductive. Une analyse herméneutique de ces deux mathématiques, la mathématique purement déductive, qui est donc purement formelle, et la mathématique démonstrative, qui est constructiviste. Et Baker donc, va se ranger du côté de l'intuitionnisme de Weil et de Brouwer contre le formalisme axiomatique de Hilbert. Ça, c'est dans les années 20, et je dois dire aussi que, après, dans les années 30, parfois des analyses un peu étonnantes qu'on peut trouver sous la plume de Baker. Donc l'histoire des mathématiques nous apprend pour lui que la mathématique démonstrative et intuitive est la plus originaire et que la mathématique purement déductive, la mathématique formaliste, ne s'est développée pour lui qu'à partir de la fin du XIXe siècle, vers 1870, qu'elle était déjà en germe chez Leibniz, qui de ce point de vue est considéré par lui comme le père de la mathématique formelle, mais que ce courant formaliste représente ce qu'il appelle, Baker, une Ed Hartigung, une dégénérescence de l'esprit. C'est une mathématique dégénérée et c'est une fleur tardive, dit-il, et dégénérée de l'esprit. Alors, que reproche-t-il exactement à cette théorie hilbertienne de la démonstration? Chez Hilbert, donc, il s'agit de démontrer et donner une preuve de la consistance des axiomes de l'arithmétique élémentaire, et la notion d'existence mathématique, elle se limite à l'administration de cette preuve de non-contradiction. Si existent les objets, donc on aura montré que les axiomes qui les commandent sont non-contradictoires. Or, cette exigence de non-contradiction, pour Becker, elle est la condition, en réalité, du caractère indéfiniment prolongeable de la déduction purement formelle. Elle exprime, dit-il, le souci de prolongement illimité de l'activité déductive elle-même. C'est-à-dire que cette exigence de non-contradiction, elle exprime le souci de, dit-il, de conservation du mode de souci spécifiquement vivant chez le chercheur en mathématiques formelles. L'entreprise déductive doit être assurée, quoi qu'il en soit par ailleurs des choses et des problèmes dont il est question, ou dont il pourrait être question. Et en transférant le sens de l'existence mathématique à la non-contradiction de la formation existante, eh bien, dit-il, on détourne le regard du sens d'être de cette formation, on s'interdit délibérément la possibilité de s'interroger encore sur le mode d'être de la formation. La mathématique formelle représente pour Becker donc l'accomplissement de ce qu'il appelle la tendance aphairétique, aphairétische tendance, que Becker croit pouvoir déceler dans l'histoire de la mathématique. Je cite Becker: The expression signs that signify nothing, Zeichen die nichts bedeuten. C'est une expression qui est reprise à Hilbert, au texte de 1922 que je citais tout à l'heure, dans lequel Hilbert, pour donner sa preuve de la consistance de l'arithmétique élémentaire, commence par se donner un certain nombre de signes, 1, plus, et ces signes, pour lui, 1, 1 plus 1, 1 plus 1 plus 1, n'ont aucune signification, et il ne faut leur attacher aucune signification. Et les chiffres 2, les chiffres 3, n'ont aucune signification. La seule signification qu'ont ces chiffres, 2, 3 chez Hilbert, c'est d'être des abréviations, de communiquer des abréviations, donc d'être des abréviations d'autres signes. Ce sont des signes de signes. Et donc, là, cette formule, qu'il utilise des signes qui ne signifient rien. The expression signs that signify nothing, used by Hilbert for the Urgegenstände of mathematics is not correct, even if in all appearances it targets something that is right. Donc, la lecture que fait Becker, c'est que cette idée de signes qui ne signifient rien, qui sont vides de sens, est erronée, mais qu'elle vise quelque chose de juste. Et la question, c'est de savoir, c'est pourquoi elle vise quelque chose de juste. Pour Becker, les objets mathématiques ne sont nullement donnés de manière signitive, dans une intention vide, puisqu'ils sont donnés dans une intuition catégoriale. De ce point de vue, il s'accorde avec Husserl, mais cela implique aussi que la tension entre ce qui est intentionné à vide et le sens remplissant, donc entre le signe et sa signification, ça suppose donc, dans cette intuition catégoriale, que cette tension entre les deux se résorbe et qu'elle tombe. Des signes qui ne signifient rien sont précisément des signes débarrassés de leur fonction d'indication, c'est-à-dire que ce ne sont pas des signes du tout. L'expression erronée de Hilbert recèle cependant, selon Baker, quelque chose de juste, car elle permet de donner congé à l'idée selon laquelle, en vertu du parallélisme noético-noématique, les objets mathématiques et les intentionnalités qui se dirigent sur elles se trouveraient sur le même plan ontologique. Donc l'intérêt, en fait, pour l'intérêt selon Baker de cette distinction, c'est de mettre, de créer une différence entre le plan des noèses et le plan des noèmes. Et ça permet donc d'indiquer que ces deux plans de la corrélation noético-noématique, ces deux plans ne sont pas aussi originaires l'un que l'autre. Selon Baker, en effet, de même que l'être signe se crée dans le rapport indicatif, de même, dans le phénomène global du mathématique, l'accent le plus important se trouve dans le rapport lui-même, c'est-à-dire dans la noèse. La priorité ontique revient à la noèse, le noème n'est que secondaire. Ceux qui sont pas entièrement familiers de Husserl, ça doit paraître assez sibyllin peut-être, mais on pourra toujours en discuter si ça vous amuse. Donc le noème n'est que secondaire, c'est comme ça que Baker interprète cette distinction. C'est exactement l'inverse, par exemple, qui se passe dans le cas de la perception sensible, comme le montre la conception kantienne de la réceptivité de la sensibilité par opposition à la spontanéité de l'entendement. Ce qui caractérise la spontanéité de l'entendement, c'est que pour les objectivités de l'entendement, eh bien, elles sont issues d'une spontanéité constitutive, alors que les objets qui sont donnés dans la réceptivité le sont de manière passive. Et donc Baker croit pouvoir retrouver ici le sens de la distinction entre la spontanéité de la réceptivité chez Kant et de la passivité de la réceptivité sensible et la spontanéité de l'entendement. Que résulte-t-il de ce constat pour Baker ? Eh bien, il en résulte que le rapport intentionnel trouve son assise dans les noèses elles-mêmes, c'est-à-dire dans des noèses qui doivent être de fait effectuées, dans des noèses, dans des actes de la conscience qui doivent être véritablement mis en œuvre et opérés, qu'ils doivent être vollgezogen, donc qu'ils doivent être accomplis, et que cette simple remarque permet de trancher en faveur de l'intuitionnisme la controverse, puisque si la force ontique, dit-il, du mathématique doit résider dans l'accomplissement des syntaxes, ces syntaxes doivent être factuelles au sens strict, c'est-à-dire qu'elles doivent être effectivement accomplies. Or, ce qui veut dire que pour Baker, les syntaxes transfinies ne peuvent pas être accomplies, ce qui implique que les axiomes transfinis de Hilbert expriment l'exigence de syntaxes qui sont ineffectuables et qui donc ne sont pas justifiées. Baker en conclut que l'analyse phénoménologique en tant qu'herméneutique du Dasein, je cite,
Phenomenological analysis as hermeneutics of the Dasein settles the controversy about the definition of mathematical existence in favor of intuitionism.
Donc elle tranche la question en faveur de l'intuitionnisme. Car l'exigence intuitionniste selon laquelle tout objet mathématique doit pouvoir être dargestellt, doit pouvoir être présenté et construit in concreto, ne renferme rien d'autre que ce postulat, selon Baker, tous les objets mathématiques doivent pouvoir être obtenus par des synthèses de fait effectuables. Ce qui signifie encore que les phénomènes mathématiques authentiquement existants, sont seulement dans les syntaxes de fait effectuables. Ils n'ont d'existence que dans ces syntaxes. La mathématique acquiert ainsi un fondement anthropologique. Il faut qui est un Dasein à l'œuvre, un Dasein mathématisant à l'œuvre, qui effectue ces synthèses, et avec ce sens quasi-opératoire des concepts, la phénoménologie des mathématiques se révèle, figurez-vous, compatible avec un certain opérationnalisme tel qu'il est défini par Bridgman dans les années 20. Je cite un passage de Bridgman, « Logic of Modern Physics » de 1927, on est toujours dans cette même période, donc il y a ce rapprochement qui a été mis en évidence par les historiens de la philosophie entre l'opérationnalisme de Bridgman en 1927 et la démarche de Baker, disons, qui est la démarche d'herméneutique philosophique, qui est l'anthropologie. L'anthropologie philosophique de Baker et l'opérationnalisme de Bridgman, puisque Bridgman écrit en 1927, il écrit ceci, c'est la citation numéro 7. In general, we mean by any concept nothing more than a set of operations. The concept is synonymous with the corresponding set of operations. If the concept is physical, as of length, the operations are actually physical operations, namely those by which length is measured. Donc, une longueur, c'est ce qui est actuellement possible de mesurer. Or, if the concept is mental, si le concept est mental, comme celui de continuité mathématique, ces opérations doivent être des opérations mentales. Par exemple, celles par lesquelles on détermine si une multiplicité est ou non une multiplicité continue. Et c'est ce double héritage, à la fois opérationnaliste au sens de Bridgman et phénoménologique au sens de Baker, qui caractérise la philosophie des mathématiques de Felix Kaufmann. C'est ce double héritage, cette double influence qui seule permet de bien comprendre la situation de Felix Kaufmann dans les années 20. D'un côté, l'opérationnalisme de Bridgman, de l'autre, la phénoménologie telle qu'elle est représentée et telle qu'elle arrive jusqu'à lui par Baker. Donc, dernier point, Felix Kaufmann, phénoménologie et empirisme logique. Donc, Felix Kaufmann, c'est un élève de... Ce n'est pas un élève de Husserl, je l'ai dit, c'est un élève de Kelsen. C'est d'abord un philosophe du droit. Il est Privatdozent à Vienne, où il enseigne la philosophie du droit. Comme quand on est Privatdozent, on n'est pas bien payé, il est aussi, par ailleurs, dirige une compagnie pétrolière. ce qui le rémunère nettement mieux. Alors, du coup, dans ce texte sur lequel je vais m'appuyer ici, le texte sur lequel je vais m'appuyer de Kaufmann, c'est Das Unendliche in der Mathematik und seine Ausschaltung, l'infini en mathématiques et sa mise entre parenthèses. La mise entre parenthèses. Et je voudrais simplement examiner le lien qui est fait par Kaufmann, la manière dont il se réfère à la fois au cercle de Vienne et à la phénoménologie. Je voudrais m'intéresser au chapitre 2 de cet ouvrage, Das Unendliche in der Mathematik, chapitre 2 qui s'intitule Symbolisme et axiomatique, où Felix Kaufmann revient sur ces questions qui sont examinées. Donc il revient en 1930 sur ces questions qui ont été examinées par Baker en 1927. Et dans cet ouvrage, eh bien, Kaufmann, en s'inspirant donc de l'opérationnalisme de Bridgman et de Baker, eh bien, va procéder à une critique de la théorie de la démonstration de Hilbert et du formalisme en mathématiques. Alors, Kaufmann, dans ce chapitre, soutient une double thèse qui semble contredire la théorie de la démonstration de Hilbert, dont il considère cependant qu'elle représente la découverte la plus importante dans les recherches sur les fondements des mathématiques. Donc, selon Kaufmann, le concept de signe dépourvu de sens, senseless sign, est une contradiction dans les termes, car l'assertion selon laquelle des phénomènes, des signes, c'est-à-dire des phénomènes visuels ou des phénomènes acoustiques, sont des signes, renferme déjà l'assertion qu'au moyen de ces signes, on peut comprendre quelque chose et qu'à l'aide de ces signes, on peut saisir les pensées des autres. Et il se réfère ici à Carnap et au Logische Aufbau der Welt, paru en 1928. Donc on est toujours exactement dans ces années qui m'intéressent ici, la fin des années 20 et le début des années 30. Et on voit cet auteur, Kaufmann, et il est très intéressant parce que, s'agissant de Carnap, on peut toujours s'interroger pour savoir s'il y a un lien de Carnap dans la construction carnapienne, un lien entre la construction telle que l'entend Carnap et la constitution telle que l'entend Husserl. Mais, disons qu'en tout cas, dans le texte de Carnap lui-même, il n'y a aucun renvoi explicite à Husserl ni à la constitution husserlienne. On va s'en tenir de ce point de vue à de l'interprétation. Ce qui est intéressant dans le cas de Kaufmann, c'est que les références sont explicites. Et donc ici, il fait usage de la distinction qui est mise en œuvre par Carnap dans le Logische Aufbau der Welt au paragraphe 19 entre les relations d'expression et les relations de signification. Donc c'est ce qui correspond à ce que Carnap appelle la relation Ausdrucksbeziehung, donc la relation d'expression, c'est-à-dire la relation qui se trouve au fondement de l'inférence par laquelle nous déduisons à partir de processus physiques quelque chose du psychique. Par exemple, dit Carnap, un mouvement de la main, un mouvement mimique du visage traduit un état psychique, elle traduit une émotion, et on infère à partir du mouvement, à partir du signe, l'état émotionnel du sujet qui réalise ce mouvement. Il n'est pas nécessaire cependant que chaque phénomène visuel ou acoustique ait un sens indépendant. Il se peut même que le sens n'augmente pas tant que plusieurs phénomènes physiques ne se trouvent pas reliés d'une certaine manière. Il n'est pas tout à fait correct de parler dans ce cas de signes dépendants, dit Kaufmann, dans la mesure où aucun signe à proprement parler n'est présent tant que cette liaison ne s'est pas produite, donc tant que la liaison avec les autres signes ne s'est pas produite, et avec elle, la relation de signification. Plutôt que de signes dépendants, Kaufmann préfère parler de symboles incomplets, incomplete symbols, en reprenant donc l'expression de Principia Mathematica. Par symbole incomplet, écrivent Russell et Whitehead dans les Principia Mathematica, c'est simplement un symbole qui n'a pas de sens pris lorsqu'il est isolé, mais qui acquiert un sens lorsqu'il est défini dans un certain contexte. Les signes ont un sens et sachant qu'il y a des signes qui peuvent prendre un sens simplement dans un contexte donné. Grâce à son sens, c'est-à-dire grâce à sa liaison avec la pensée, et telle est la seconde thèse soutenue par Kaufmann, un signe est indirectement lié à la chose qui constitue l'objet de la pensée. Il est par conséquent essentiel que chaque signe signifie quelque chose, c'est-à-dire précisément cela même qui forme l'objet de pensée qu'il exprime. Et c'est ce qui correspond à ce que Carnap appelle la Zeichenbeziehung, la relation de désignation, c'est-à-dire celle qui existe entre les objets physiques qui signifient quelque chose, die etwas bedeuten, et ce qu'ils signifient. Par exemple, le signe écrit Rome, dit Carnap, désigne la ville de Rome, et selon Carnap, tout objet de connaissance conceptuelle peut par principe être désigné d'une manière quelconque. Il appartient, quelle que soit par ailleurs la catégorie dont il relève, au codomaine de la relation de signification. En s'appuyant ici donc sur Carnap, Kaufmann, s'appuyant sur cette distinction qu'on trouve chez Carnap, mais aussi chez Husserl dans la première recherche logique, il y a ici une continuité des recherches logiques de Husserl au texte de Carnap, donc en s'appuyant sur cette distinction, Kaufmann propose cette lecture donc, de la théorie de la démonstration de Hilbert. Il déclare que, en fait, cette théorie de la démonstration, son idée maîtresse, c'est que toutes les propositions qui constituent les mathématiques pourront être transformées en des formules. C'est ce que dit Hilbert, et il rapporte cette phrase de Hilbert dans les Grundlagen der Mathematik. Donc c'est le texte de la conférence de 1904. Toutes les propositions qui constituent la mathématique peuvent être converties en un stock de formules. Peuvent être converties en formules, si bien que la mathématique apparaît elle-même comme un simple stock de formules. Les signes qui sont utilisés, le stock de formules qui est celui de la mathématique, ne se distingue de celui de la mathématique ordinaire que parce qu'on y intègre un certain nombre de signes qui sont empruntés à la logique, d'où l'idée d'une construction simultanée chez Hilbert entre la logique et l'arithmétique, notamment le symbole d'implication matérielle, le « et », le « ou », la négation, etc. D'où la correction critique qui est proposée par Kaufmann, qui n'est pas dirigée, dit-il, contre la théorie de la démonstration en tant que telle. Donc Kaufmann déclare, un peu imprudemment, que sa très grande portée mathématique apparaîtra de plus en plus clairement, je cite, dans les années à venir. On est en 1930. Donc cette correction critique n'est pas dirigée contre la théorie de la démonstration elle-même et contre sa fécondité mathématique, mais elle est dirigée contre ce que Kaufmann appelle l'interprétation philosophique qui est proposée de leur théorie par Hilbert et Bernays. Et cette interprétation philosophique, elle est exprimée dans cette citation que j'emprunte à Bernays dans l'article « Über Hilberts Gedanken zur grundlegenden Arithmetik » texte de 1922, « Whenever concepts are missing, a sign is introduced at the right moment. » Dès qu'un concept manque, eh bien, on introduit le signe au moment opportun. « This is the methodological principle of Hilbert's theory. » Voilà le principe méthodologique de la théorie de Hilbert. Donc, Kaufmann voit dans cette remarque l'expression de l'aveuglement où peuvent tomber les scientifiques et les mathématiciens lorsqu'ils proposent une épistémologie spontanée, une philosophie spontanée de leur propre pratique scientifique. Selon cette interprétation, en effet, les démonstrations sont des figures intuitivement données, entièrement dépourvues de signification. Or, pour Kaufmann, cette signification, les axiomes en ont bien une, elle se trouve dans les règles d'usage des signes. Les règles d'usage des signes, dans la formulation de ce que Hilbert appelle les formules des les figures de la démonstration, eh bien ces règles d'usage des signes contiennent elles-mêmes le sens qui appartient aux transformations logiques en tant que telles. Voilà comment Kaufmann propose donc de corriger le versant philosophique de la théorie de Hilbert et Bernays. Simplement, pour un mot de conclusion, en avril 1933, je l'indique dans la dernière citation, le Sum Philosophein entre Husserl, Hilbert, Husserl, Becker et Mannke avait fait long feu. Husserl s'est vu signifier son congé, il ne pouvait plus, il était enfermé dans ce qu'il appelait un ghetto spirituel, où l'avait cantonné les lois raciales, par lesquelles ses œuvres se trouvaient exclues de l'histoire spirituelle de l'Allemagne, comme un poison dont on doit se protéger et qui doit être extirpé, disait Husserl dans sa correspondance, dans cette lettre de 1933. Je vous remercie.
Okay, so I have one question regarding the fifth point about the Hilbert criticism. So I've seen this point being raised by another phenomenologist to another logician, namely Ingarden criticized the illogician that I mentioned, Fistek, with almost exactly the same argument. So I was wondering whether this is a common theme, like a common line of criticism coming from phenomenology for what was happening in logic, or did they know about each other's points?
In Garden, it's in the text called Essentielle Fragen.
I don't know, maybe, yes. I can't remember.
In this text, Essentielle Fragen, in Garden, he's c'est un élève de Twardowski. Il appartient à ce courant de la phénoménologie qui est un courant réaliste, une tradition réaliste de la phénoménologie. Et en effet, on va retrouver ce type de critique chez Ingarden qui appartient à un courant réaliste de la philosophie, mais de la phénoménologie. Mais la différence ici, c'est que Ingarden se rapproche, lui, de Frege et du courant frégéen. Ce que ne fait pas du tout Oscar Baker, par exemple. Et donc, Ingarden, il va être vu comme un réaliste, en fait, qui considère, par exemple, que les objets mathématiques, ce sont des extensions de concepts, et qu'à partir du moment où on a des extensions de concepts, on a des objets. Voilà. Alors que chez Baker, ce qui importe, c'est la relation de signification. C'est la compréhension des concepts, pas seulement les extensions de concepts qui donnent leur sens. Donc il y a ici cette distinction, mais c'est vrai que cette critique, on la retrouve en effet chez cette tradition, l'école de Lwów-Varsovie, ensuite, donc chez ses disciples de Twardowski.
Je crois que Chris avait dit. Non, c'était. Ok. Oui, vas-y. Ce serait une question à propos de tout début sur l'approche génétique des mathématiques par Husserl. Si j'ai bien compris, c'est une approche dans laquelle ce qui est mis en avant, c'est l'idée de possibilité, en fait, une pure possibilité. Alors, je comprends bien le fait de ne pas prendre pour objet, historicité des sciences, l'infanticité, etc. Mais j'ai plus de mal à comprendre comment on peut rendre compte, en fait, comment on sort pour rendre compte, alors qu'il est au courant, bien évidemment, du fait que dans l'histoire des mathématiques ou de la physique, à un moment donné, il y a des nouvelles possibilités qui apparaissent, des nouvelles possibilités conceptuelles. Donc on passe de quelque chose qui était peut-être inintelligible à quelque chose qui le devient. Et ça, j'ai du mal à comprendre, en fait, comment il peut rendre compte de ça. Parce qu'il ne peut pas juste le négliger, sinon ça fera son objet même, alors même qu'il est au courant en fait, de ce genre de choses, au moins sur l'histoire des mathématiques.
Oui, je ne vois pas très bien. C'est-à-dire que on a des extensions de domaines d'objets qui sont inscrites dans les. Qui sont elles-mêmes justement ces pures possibilités.
C'est un problème qui marche.
C'est, ces changements de paradigme dans l'histoire des mathématiques, ces effets de rupture, ils n'impliquent pas que les mathématiques soient, on parle des faits ou que ce soit une démarche empirique, ils impliquent simplement l'idée que dans la réeffectuation des gestes mathématiques dont je parlais tout à l'heure, de cette opérativité mathématique, de ces noèses, de ces opérations dans lesquelles se loge le mathématique lui-même, eh bien c'est possible, ces opérations elles puissent être reprises, réactualisées à partir d'un site historique différent, ce qui fait par exemple que on va pouvoir relire la théorie d'Archimède, par exemple, autrement que à telle époque ou à telle autre époque. Ce qui fait que, par exemple, on va pouvoir relire à partir de Riemann tel auteur ancien dont on va redécouvrir, par exemple, une fécondité qui n'était pas apparue jusqu'à présent.
I think that you said it, but I might have not heard it very clearly. Could you repeat what Bridgman's significance was for Kaufmann's criticism of formalism? So I think you presented Kaufmann's views as a combination of Becker and Bridgman, but Becker seems
very
seems
far
to be
from
very. I mean, Becker's criticism of Hilbert seemed conclusive, and so what did Bridgman add?
La proximité entre Bridgman et Becker, elle est dans cette idée que le mathématique et les concepts mathématiques, ils se définissent par les opérations factuelles qui doivent être accomplies. Alors, je ne crois pas que Bridgman parle ou que ce soit de Dasein. Le Dasein ne fait rien chez Bridgman, mais chez Heidegger, le Dasein, c'est ce sujet mathématisant qui doit opérer des synthèses, des syntaxes, et le mathématique, tout son poids, il est dans cette opérativité du Dasein. Et c'est la raison pour laquelle Kaufmann voyait une proximité entre l'opérationnalisme de Bridgman et la définition du concept que j'avais donné tout à l'heure et la perspective qui est celle de Becker et qui est en fait une anthropologie philosophique. Une sorte de proximité entre l'anthropologie philosophique de Becker et cette définition purement opératoire des concepts chez Bridgman.
J'aurais juste deux petites questions. Déjà, la première, c'est sur Kaufmann. Je pense que c'est pour rejoindre un peu ce que disait Chris, enfin, ce que j'ai compris, qui était qu'est-ce qu'ajoute finalement Bridgman à Becker. Ce que je voulais dire moi, c'était que j'avais l'impression que Kaufmann était vraiment aussi très kelsénien dans son approche, dans la mesure où c'est l'usage des règles qui constitue le contenu des concepts, exactement comme dans une approche du droit à la kelsen. Je trouve qu'il est.
Oui, mais c'est pas simplement une approche pragmatique, tu vois, dans le sens où les choses se définissent simplement par l'usage qu'on en fait.
D'accord. D'accord. Ok. Ça m'était pas clair ça. Je voulais juste prendre une autre question sur le. Bon, je comprends bien l'opposition de Becker et de Kaufmann. À, en fait, un point de vue presque métamathématique, où on sépare les formules ou les signes mêmes du contenu. D'ailleurs, je trouve que l'analyse de Becker, etc., pointe vraiment quelque chose sur lequel Hilbert lui-même met l'accent. C'est-à-dire, il y a beaucoup de textes de Hilbert sur l'importance des signes. Vraiment, enfin, c'est, qu'est-ce que c'est qu'un signe ? Pourquoi c'est différent d'une perception, etc. Il y a des textes de Hilbert là-dessus, notamment sur la stabilité des signes. Mais ouais. la question que je voudrais poser, c'est qu'on pourrait très bien dire, mais finalement, on pourrait avoir une approche substitutionnelle, c'est-à-dire, oui, chien renvoie à Médor, mais ce que je t'explique, c'est que chien pourrait renvoyer à une autre référence, d'accord ? C'est-à-dire avoir une approche presque modèle théorétique ou sémantique des signes et constituer la syntaxe comme une sorte de produit dérivé d'une substitution des interprétations sur les signes eux-mêmes. Est-ce que ça, c'est envisagé ou quel est le rapport ensuite de ces gens-là avec les approches plus sémantiques en fait, qui vont apparaître dans les années 30 où on a besoin d'une métamathématique mais c'est plus le même statut du signe. C'est pas que le signe est indépendant de contenu, c'est que les contenus sont variables. Tu comprends ce que j'essaie de dire.
Mais ça, c'est vraiment une grosse question, c'est-à-dire par rapport aux approches sémantiques de la vérité, comme on l'a trouvé chez Tarski.
Simplement, l'idée, c'est que le signe est le résidu d'une opération de substitution. Des objets qu'il désigne. L'opposition n'est pas entre la marque et l'objet. L'opposition est entre la marque qui désigne un objet. Tu modifies les objets, tu fais une variation dans les interprétations d'un même signe.
Non, mais attends, ça suppose quand même que les signes renvoient et déjà une signification. C'est
oui,
pas le cas.
Tout à fait.
Oui,
je suis d'accord.
Si tu as déjà des interprétations, tu as déjà, par exemple, une signification numérique. Tu ne peux pas axiomatiser l'arithmétique avec des signes qui ont déjà des signes. Sinon, c'est le reproche que Poincaré fait, la lecture que fait Poincaré de Hilbert. C'est-à-dire, au moment où vous introduisez les signes, on sait déjà que...
Non, je suis tout à fait d'accord avec le fait que ça... C'est pas l'approche qui est visée. C'est pas du tout ça. Je dis simplement que simplement cette opposition à une perspective méta-mathématique, elle est assez précise en fait, et elle n'est pas une opposition à toutes les formes de mathématiques possibles. Il pourrait y avoir une justification, si tu veux, qui soit compatible avec ce que dit Becker et ce que dit Kaufmann d'un point de vue méta-mathématique. C'est simplement, si tu veux, on a les mêmes, je pense, les mêmes discussions avec les points de vue universalistes ou les points de vue réalistes. Ouais. Est-ce qu'on peut penser la possibilité d'une variation des modèles dans ces perspectives ou pas ?
Je sais pas. Ce que je pourrais dire, en tout cas, c'est que le point de vue métamathématique lui-même, il n'exclut pas la signification.
Oui.
C'est le point de vue, dans le point de vue métamathématique, on a à nouveau des inférences contentuelles. Des inférences avec des énoncés qui ont une valeur sémantique. Donc, dans la métamathématique, c'est évident qu'on a besoin de ce relais de la signification. Mais dans la phase antérieure, il y a une phase, en tout cas chez Hilbert, qui est clairement décrite, qu'il appelle la formalisation, et qui a lieu non pas dans la métamathématique, mais dans la mathématique elle-même. Et elle, pour le coup, avec ses démonstrations, etc., elle se résume à un pur jeu sur les signes dont il dit que...